VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Bamako, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. La lutte contre Boko Haram, l'armée nigérienne a annoncé hier soir avoir tué 15 militants du groupe islamiste nigérian, fait prisonnier 20 autres et détruit un véhicule blindé et 26 motocyclettes de l'ennemi. Niamey n'a pas donné d'autres détails sur cette opération, mais Boko Haram est particulièrement actif dans le sud-est du pays, près du lac Tchad et des frontières du Nigeria et du Tchad. La secte islamiste continue par ailleurs à attaquer le Niger. Des détails avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
L'attaque a eu lieu dans la nuit du mardi à mercredi dans un village situé sur la frontière avec le Nigeria, pas loin de Bosso, la première localité attaquée par la secte islamiste Boko Haram sur le territoire nigérien, c'était en février dernier. Selon des sources contactées par la Voix de l'Amérique, les assaillants seraient venus du Nigeria voisin. Ils ont brûlé le marché du dit village avant de tuer 6 personnes. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Mali, séminaire de 3 jours à Bamako sur l'insécurité transfrontalière à l'intention des parlementaires maliens, nigériens et burkinabés. Une initiative du NDI, l'Institut démocratique national des États-Unis. Un extrait des activités à la Réunion avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La députée de Tombouctou qui participe à cette rencontre pense qu'il faut une synergie d'action sous-régionale pour venir à bout de l'insécurité dans le Sahel. Honorable Maïga Aziza Mint Mohamed.
Eh bien, c'est tout le Sahel aujourd'hui qui est en danger. Le Sahel est infesté par la prolifération des armes, infesté par le trafic de drogue, infesté par le trafic de personnes et de biens. Et voilà pourquoi nous nous sommes aujourd'hui retrouvés en salle, le Niger, le Burkina, le Mali, pour échanger, trouver des solutions adéquates pour lutter contre ce
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Burkina Faso, le gouvernement de transition devrait concentrer tous ses efforts sur les élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain. C'est ce qu'estime International Crisis Group dans son tout dernier rapport sur la situation dans le pays. L'ONG d'analyse politique s'inquiète du fait que dans un contexte marqué par de fortes tensions sociopolitiques, des représentants de l'ancien pouvoir aient été exclus des prochains scrutins. Les explications de Cynthia Ohayon, analyste pour l'Afrique de l'Ouest à ICG, au micro de Camille Gros-Didier.
Il y a un nouveau code électoral en fait qui a été voté en avril et ce code prévoit que sont exclus des prochaines élections tous ceux qui ont soutenu la révision constitutionnelle qui visait à autoriser le président Blaise Compaoré à briguer un autre mandat. Donc ce code électoral, même s'il est un peu flou, est très ambigu et qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la façon dont il va être appliqué, il vise à exclure en fait les anciens soutiens du président Compaoré, donc la classe politique dirigeante sous l'ancien régime. Et ça risquerait de les pousser vers des stratégies extra-électorales de contestation, voire de déstabilisation ou de sabotage du processus électoral. C'est une menace qui pèse de manière incertaine, mais qui pèse sur les élections.
Dans votre rapport, vous notez que le gouvernement burkinabé de transition est pris au piège de ses propres errements.
En fait, le gouvernement, quand il a été mis en place, ça s'est fait dans un contexte un petit peu d'euphorie post-révolutionnaire où on ne pensait pas que la chute de Compaoré était possible. Donc il y a eu énormément d'attentes populaires qui se sont accumulées autour de la mise en place de ce gouvernement. Et le gouvernement a fait énormément de promesses, donc notamment le premier ministre Isaac Sida, qui est issu de la garde présidentielle de Compaoré, a fait beaucoup de promesses. Il a par exemple promis justement qu'il allait dissoudre cette garde présidentielle, qu'on appelle le RSP, le Régiment de Sécurité Présidentielle. Et on a vu assez rapidement, début février, il y a eu une sorte de mini-crise politique. On a vu qu'il n'avait pas du tout la marge de manœuvre qu'il pensait avoir, ou du moins qu'il disait qu'il avait. Il a été d'ailleurs assez rapidement obligé de reculer. Il a récemment dit que le RSP ne serait pas dissous, etc. Il y a aussi beaucoup d'attentes au niveau économique, social, des demandes de justice pour tous les crimes qui ont été commis. Le gouvernement a fait beaucoup de promesses et il est évidemment incapable de tenir toutes ces promesses. On est dans un contexte de crise budgétaire.
Justement, quelles sont certaines des recommandations donc du rapport de l'International Crisis Group?
Il y a deux ou trois éléments peut-être qui seraient importants de souligner. Le code électoral dont j'ai parlé au début, c'est en fait une grande marge d'interprétation au Conseil constitutionnel. Ce que le gouvernement pourrait faire pour le préciser serait par exemple de publier un décret pour préciser quels seront les critères qui seront utilisés pour déterminer qui a soutenu ou pas la révision constitutionnelle. Ce qu'on espère, c'est que le code électoral sera appliqué de manière suffisamment restreinte pour ne pas exclure trop de monde. Et donc, il y aura une sorte de modération à ce niveau-là. Autre chose aussi qu'on recommande aux acteurs politiques et de la société civile burkinabé serait de considérer d'ouvrir un dialogue politique le plus formel possible.
Cynthia Ouayon, chargée de l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group, joint à Dakar par Camille Gros-Didier.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le président rwandais Paul Kagame condamne ce qu'il appelle l'arrogance de l'Occident après l'arrestation à Londres du chef des services de renseignement du Rwanda. C'est aujourd'hui que le général Emmanuel Karenzi Karake doit comparaître de nouveau devant le tribunal de Londres. Le général Karake est détenu dans la capitale britannique à la demande d'un juge espagnol, Michel Joseph.
Selon une source judiciaire espagnole que cite l'AFP, le mandat d'arrêt visant le général Karake avait été délivré en 2008 et maintenant, après sa capture, l'ordre de détention et de remise, traduit à l'anglais, a été transmis au Royaume-Uni. Le général Emmanuel Karenzi Karake sera informé aujourd'hui de la requête espagnole avec la possibilité de contester la validité de la procédure engagée contre lui. Âgé de 54 ans, il avait été arrêté samedi à l'aéroport Heathrow de Londres. Le général Karake fait partie de 40 personnalités rwandaises visées par une enquête espagnole sur des faits de terrorisme, une affaire liée à la mort de 9 ressortissants espagnols tués au Rwanda, apparemment pour avoir aidé des réfugiés Hutus.
Burundi, le deuxième vice-président du pays, est parti à l'étranger et dénonce la candidature du président Pierre Nkurunziza à un nouveau mandat. Gervé Roufikiri, qui serait maintenant en Belgique, a déclaré à France 24 être contre ce qu'il qualifie de troisième mandat illégal. Pour sa part, le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Aimé Nyamitwe, séjourne en ce moment à Washington. Ce mercredi, il s'est entretenu avec Bagassi Koura et a expliqué pourquoi Bujumbura maintient le calendrier des élections au Burundi en dépit des protestations de l'opposition burundaise et des efforts de l'Union européenne et d'autres acteurs de la communauté internationale pour un changement du chronogramme électoral. Monsieur Nyamitwe prendra témoin la communauté d'Afrique de l'Est.
Ce qui est certain, c'est que la disposition du gouvernement était effectivement de discuter de toutes ces questions, y compris le calendrier, sans pour autant mettre en cause l'avis des institutions. Comme vous savez, les conseils communaux terminent leur mandat le 7 juillet. Et si on va au-delà de cette date, nous tombons dans un vide constitutionnel par rapport à ces organes-là. Alors qu'ils sont des organes importants, qui sont les seuls habilités même à pouvoir au poste de sénateur. Or, la communauté est-africaine avait, dans sa déclaration du 31 mai, demandé qu'on repousse les élections d'un mois et demi au moins. Ça, c'était pris en considération. Mais elle bâtissait sa déclaration sur celle qu'elle avait émise le 13 mai, dans laquelle elle demandait au gouvernement de repousser les élections, mais pas au-delà des délais constitutionnels.
Le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Aimé Nyamitwe. RDC, le troisième programme de désarmement, démobilisation et réinsertion lancé fin 2013, piétine faute de fonds nécessaires. D'où l'appel du chef de la MONUSCO, la mission onusienne dans le pays, exhortant Kinshasa et ses partenaires internationaux à honorer leurs obligations. Lionel Gaïma.
Devant la presse ce mercredi, Martin Kobler a été catégorique. Sans argent, on ne peut pas agir, a-t-il déclaré. Alors que le DDR-3 doit coûter environ 85 millions de dollars, d'après le gouvernement de la RDC, moins de 10% de ces fonds sont actuellement disponibles. Kinshasa s'était engagé à offrir 40 millions sur 4 ans, mais sa contribution pour l'exercice en cours ne dépasse pas 1,5 million de dollars. L'ONU a versé ses 6 millions pour la même période, mais tel n'a pas été le cas pour les autres partenaires, comme l'Union européenne et les États-Unis, souligne l'AFP. Selon le chef de la MONUSCO, la réticence de la communauté internationale s'expliquerait par le manque de contribution du gouvernement du président Joseph Kabila.
L'Afrique du Sud envisage de quitter la Cour pénale internationale suite à la controverse au sujet de son refus d'arrêter le président soudanais Omar al-Bashir, recherché pour génocide par la CPI, pendant son séjour à Johannesburg pour participer au 25e sommet de l'Union africaine. Mais un porte-parole sud-africain souligne qu'un retrait de la Cour pénale serait la dernière option considérée après examen par Pretoria des statuts de Rome qui ont mis en place le tribunal. Et pour terminer, la guerre contre le groupe État islamique en Syrie, nouvelle offensive des djihadistes de l'organisation contre la ville de Kobané, un bastion des forces kurdes à la frontière avec la Turquie. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.